Après, il y a les planches de Largo Winch.
Oui, alors donc, oui, moi j'ai travaillé sur une adaptation de BD, du coup, pour le coup, mais où le scénario n'a pas été repris vraiment de la BD. Donc,
oui,
on ne pourrait pas comparer une planche de la BD au film parce que l'histoire est très différente. Mais, voilà, c'était pour montrer un peu. Donc, moi, je fais aussi des crobards super rapides comme ça que je mets un peu au propre après.
À quoi ça sert de les mettre au propre en fait?
Bah, c'est pour que ça soit plus clair parce que là, c'est un peu fouillé, on a plus de mal à lire en fait. Et ça, c'est pour l'équipe, pour que tout de suite, ça soit plus clair. Quoi. Mais en réalité, c'est pas forcément utile. Hein. Je vous dis, Jacques Audiard, lui, il voulait pas que ça soit plus clair, ça lui suffisait. Maintenant, ça dépend.
Et c'est les gens qui t'emploient qui le veulent ou c'est toi qui veux que le dessin soit voilà.
Ça dépend des réalisateurs. Il y en a qui veulent que ça soit propre, qui veulent après dire si on le met dans le DVD, machin, tout ça, il faut que ça soit propre. Ou si on...
Je pense qu'en regardant, quand on regardera le travail de David tout à l'heure, on verra bien un exemple de gros contraste entre les rendus visuels de planches en fonction du client en fait.
Ouais, c'est ça. Par exemple, pour les pubs, il faut que ça soit hyper propre parce que c'est le client, monsieur Danone, qui va lire le truc et il faut qu'il soit séduit et tout ça. Donc il y a tout un truc de séduction qu'il n'y a pas pour les films puisque effectivement c'est vraiment qu'un outil de travail brut. Ouais. Mais.
Donc, next, please!
Oui, alors ça, c'était pour montrer le genre de truc qu'on utilise dans un storyboard, qu'on n'utilise pas dans la BD. Par exemple, de mettre deux fois le personnage dans la même image.
Les trois têtes tout là.
Les deux têtes pour montrer. Alors ça, j'ai vu que par contre, ça y était pour la main dans la BD. Mais c'est assez rare.
Ouais.
Mais nous, dans le storyboard, on l'utilise beaucoup. Quoi. Ou des trucs qui sortent de la case. Ça s'utilise aussi en BD, il y en a pas mal dans les mangas notamment, mais nous il y a dans le storyboard en fait c'est pas un truc qui se passe à l'intérieur de la case, c'est une case posée sur tout un truc qui se passe avec un hors-champ, et des fois on peut suggérer le hors-champ en faisant dépasser des trucs de la case pour dire pour suggérer cet hors-champ en fait oui, c'est ça, voilà. On peut montrer clairement un mouvement qui est complexe, par exemple, en dessinant deux fois le personnage, quoi. C'est pas du tout interdit, alors qu'en BD, évidemment, ça serait complètement confus si on faisait ça.
Voilà, la planche d'après, s'il vous plaît. Super, sur le coup, c'est cool. Donc là, oui, c'est beaucoup de flèches.
Donc voilà, là, par exemple, l'ours, il est trois fois dans le panoramique. Et c'est pas effectivement on met des flèches mais c'est pas trois, il n'y a pas trois ours, c'est vraiment un seul ours et ça c'est des conventions du storyboard où pour montrer un travelling circulaire on peut dessiner des cases en perspective comme ça et faire comprendre le truc. Alors évidemment
la maîtrise de la perspective est quand même ultra importante comme nous le montre la planche d'après.
Ah oui, alors en plus, bon, alors il y a une spécificité du cinéma qu'il n'y a pas non plus vraiment en BD, sauf effectivement, moi j'ai vu des effets de flou dans les mangas, de focal, d'accélérer, de ralenti, etc. Mais au cinéma, évidemment, il faut tenir compte de la focale. Parce que la focale, en fait, ça change toute la perspective. Au cinéma, quand on prend une longue focale, par exemple, ça écrase toute la perspective. Et du coup, un personnage qui va avancer aura l'air de faire du surplace. Et tout le décor sera flou, ou toute une partie de l'image sera floue, et il n'y aura pas de profondeur, en fait. On enlève de la profondeur en utilisant une longue focale. Alors que quand on utilise une courte focale, comme on voit tout en haut, alors là, par contre, les perspectives sont complètement accentuées. Tout ce qui est à l'avant-plan devient énorme, et tout ce qui est à l'arrière-plan devient tout petit, et on peut avoir une profondeur de champ beaucoup plus grande. Alors ça dépend des effets qu'on veut faire.
Ça pour le coup, si vous connaissez le travail de Marc-Antoine Mathieu, il y a beaucoup d'effets Judas comme ça, avec un œil énorme en premier plan.
Ouais. Mais ça, voilà, c'est carrément du fichaille. c'est la coupe focale la plus courte ou carrément c'est déformé, complètement déformé. Mais voilà, au cinéma, il faut savoir dessiner, par exemple, effectivement, des changements de mise au point, comme on voit là, où l'avant-plan est flou et puis ensuite c'est l'arrière-plan qui devient flou. Faut être capable de dessiner ça. Alors évidemment, il y a toutes les variations de focales que je ne sais pas dessiner hyper précisément dans la perspective.
Oui, mais, du 85 au 50, c'est peut-être...
Voilà, c'est super dur à dessiner. Mais en tout cas, sur la perspective, on peut vraiment créer une idée de focale et jouer avec ça dans, dans les raccords et dans la narration, quoi. Et souvent, voilà, on fait deux cases pour un seul plan, avec un A, un B, comme ça, quand c'est impossible de dessiner la même chose en une seule case, on dessine en deux ou trois pour bien faire comprendre ce qui se passe.
Alors, je ne sais plus ce qu'il y a après, je pense qu'on revient au début, je crois. Ah non, ah oui, ça c'est les différents rendus en fonction de l'outil que tu utilises.
Voilà, ouais, ça c'est les différents rendus. Ah bon, il y a un storyboard qui n'est pas du tout de moi qui s'est glissé dedans, je ne sais pas si vous trouverez lequel. Il y a les oiseaux d'Hitchcock, quand même, c'est pas de moi, c'est... je n'étais pas encore née, mais c'était pour montrer différents rendus, oui, de...
Bon, et là, en l'occurrence, les rendus, c'est censé avoir, contenir du sens aussi pour le récit, ou c'est juste en fonction de la demande de ton interlocuteur, de ce que tu as envie de faire, ou du genre de film, peut-être, je sais pas.
Ben, oui, En fait, je ne sais pas vraiment pourquoi je choisis un rendu plutôt qu'un autre. Mais c'est vrai que quand il y a des notions de focale, je préfère souvent utiliser le crayon parce que du coup, c'est plus facile de faire des flous. Quand il y a des décors un peu vagues aussi, comme de l'eau ou des roches et tout ça, je préfère aussi être plus dans le crayonné et pouvoir faire des... Mais bon... C'est plutôt plusieurs styles que j'ai essayé. C'est vrai que dans la pub, ils aiment bien les styles un peu léchés, comme ça, là, c'est fait avec des pintones, au feutre et au pintone, en fait, et avec des gris, des nuances de gris, etc. Mais moi, c'est pas ce que je préfère, finalement. Je trouve ça plus figé qu'un dessin au crayon.
Est-ce que l'ambiance lumière que va donner le réal et le chef-op de donner une direction justement sur ces choix de... Il va y avoir un contraste
en fonction du... Je sais pas comment dire ça, du pinceau, du crayon, il y a des rendus de contraste, il y a des...
Ouais.
Moi en tant que chef-op, ça me parle vachement d'avoir ce truc-là.
Ouais.
Je sais que le pantone gris, ça, moi je vois plutôt une image plutôt douce, un type d'éclairage assez doux, une lumière... en réflexion, alors que évidemment il y en a d'autres où je vois un truc beaucoup plus contraste, beaucoup plus agressif, et là ça me parle vachement en tant que,
ouais,
en tant que mec qui doit faire la lumière à un moment ou à un autre. Donc je pense que ce rendu là, est-ce qu'il y a une discussion avec le réal là-dessus ou pas?
Ben, en fait ça dépend, quand effectivement on discute et que la lumière participe à la narration et qu'on se dit il faut qu'il y ait des trucs dans l'ombre, il faut qu'il y ait des trucs où l'image soit très contrastée, etc. En effet, là, je choisis le style graphique en fonction de ça. Si on me dit ça va se découper, il va y avoir des zones complètement noires, etc., je vais plutôt utiliser de l'encre. Alors que si on me dit il va y avoir des zones floues, des zones peu éclairées, mais où on distinguera des choses, etc., là, je ne vais pas utiliser l'encre parce que je ne vais pas pouvoir faire... le contraste ne va pas aller, quoi. Il ne va pas aller avec la photo que prévoit le réalisateur et le chef-op. Mais généralement, l'étape du storyboard se fait avant l'intervention d'un chef-op qui va donner son point de vue, etc. Mais après, il arrive qu'on retravaille aussi en fonction de ce que le chef-op dit. Et c'est vrai que c'est des indications de lumière, mais moi, je ne suis pas censée, en tant que storyboarder, justement, ça doit rester assez flou, enfin, assez peu... c'est à la fois précis et pas précis, c'est-à-dire que ça doit laisser... je ne dois pas empiéter sur le boulot du chef-op, sur le boulot du chef déco, etc. Donc ça doit rester suffisamment imprécis pour que lui, après, il puisse imaginer son truc à lui. Si je donne des notations de lumière très très précises, ça va complètement orienter ou figer le truc dans un... Alors que moi, je suis pas chef op et j'ai pas... Mais quand effectivement le réalisateur me donne des intentions de lumière, là je les mets et puis après évidemment le chef op va intervenir après derrière avec ses idées à lui. Mais
et quand t'es avec
et quand t'es avec Audiard et que il vous discutez de la scène par exemple quand le personnage arrive et qu'il tue les mecs dans la voiture. Mm-hmm. C'est, vous êtes l'un à côté de l'autre et lui tu dessines à côté de lui et tu lui donnes des idées pour chorégraphier sa scène, ou alors c'est lui qui sait que le personnage il doit rentrer comme ça, il doit se mettre comme ça ensuite près de...
Alors en fait avec Jacques Audiard c'était un travail assez particulier parce qu'en fait quand je suis arrivée pour faire son storyboard, il m'a dit bah écoute voilà, moi j'ai un découpage hyper précis en tête mais je ne vais pas te le donner. Et
tu peux, oui, non,
j'étais super étonnée.
Parce que les planches de Audiard sont un peu plus tôt.
Ouais, alors j'étais super étonnée quand il m'a dit ça, qu'il n'allait pas me donner son découpage, parce qu'il m'a dit...
Super, merci.
Voilà, moi j'ai des idées très arrêtées sur la façon dont je vois ma scène, mais j'ai envie d'avoir un autre point de vue, d'autres idées. Et après, on discutera à partir de la base de ce que moi j'aurai comme découpage et de ce que toi tu proposeras.
Donc ça, c'est ta proposition.
Et c'est ma proposition. Mais je crois qu'on a, et en fait, après, une fois que je lui fais cette proposition, on retravaille. Et il me dit, ah ouais, non, mais là, ça c'est une bonne idée, je prends. Là, par contre, moi, je voyais tel truc et tel truc. Et au final, on retravaille plusieurs fois le storyboard comme ça. Jusqu'à ce qu'il ait un truc qui.
Et toi, t'avais quoi comme élément en fait en commençant?
Le scénario.
La scène-là, par exemple.
Le scénario. Alors, non, mais là, j'avais même pas le scénario parce qu'en fait, cette scène-là de voiture, c'était particulier parce que dans le scénario, c'était pas du tout ça. C'était une fusillade dans la rue. Et en fait, moi, j'avais commencé à storyboarder cette fusillade dans la rue. Et puis je suis venue avec un storyboard de cette fusillade. Et là, Audiard, il m'a dit, oh, j'ai eu une idée ce matin. Je me suis dit, faudrait, et si on faisait tout dans une manuelle? Et moi, j'ai regardé, j'ai dit, mais c'est une idée géniale, il faut le faire. Personne n'a jamais fait ça, toute une fusillade dans une manuelle. Et du coup, on a commencé à en parler. Du coup, là, j'avais même pas de scénario, ça n'était même pas écrit. Donc, on a commencé à en parler, à se dire, ah oui, alors... Et ça pourrait se passer comme ci, comme ça. Où est-ce que tu vois? Je lui ai demandé où est-ce que tu vois les mecs, où est-ce qu'ils rentreraient dans la voiture, comment on fait, etc. Après, je lui ai proposé un storyboard. Après, on en a rediscuté, etc. On a modifié. Je pense que ça, c'est le... Ça, je ne sais plus quelle étape c'est, mais voilà, quoi. C'est...
Et genre, par exemple, l'idée de toi, du personnage qui se retrouve à côté du volant, là, tu vois? Ça vient d'où alors?
Qui se met tout en haut là,
à droite. Qui est volant, qui est par terre en fait. Dans...
Qui se couche sous le volant là, c'est ça?
Ça vient d'où ça par exemple?
Eh ben, ça vient de cette discussion quand il m'a dit j'ai eu cette idée et tout. On s'est mis à discuter de vraiment. On a. Ben, moi j'ai fait des. En fait, à cette étape là, on fait des croquis vus du dessus de la voiture et on se dit ah, il pourrait faire ça. Et on fait des... Enfin, il faisait des propositions. Et puis, évidemment, il tranchait sur tout en disant « Ah, mais non, mais je veux que le mec fasse ça. » Et moi, je proposais des idées. Et lui, après, il tranchait. Il disait « Bon, alors, il va faire ça. » Bon, voilà, ouais, c'était de la discussion. En fait, on discute. Moi, je prends plein de notes. Et je fais des croquis vus du dessus et tout avec les axes de caméra, etc. Je lui demande plein de précisions sur tous les plans qu'il imagine. Enfin là, en l'occurrence, il m'a laissé un peu proposer d'abord un premier découpage et en me laissant assez libre. Mais après, oui, je prends des notes sur tout et je dessine chez moi. Par contre, je dessine pas en direct pour répondre à ta question. À côté de lui, enfin si ça m'arrive, je peux faire des croquis et tout, mais après il me faut plus de temps de réflexion pour composer les images et tout ça. Là en direct comme ça, généralement c'est pas génial ce que je fais, je préfère le repenser quand même chez moi tranquille.
T'as jamais eu envie de réaliser toi-même?
Si, j'ai quand même fait des petits courts-métrages d'ailleurs, mais oui, c'est sûr que c'est. En fait, moi, je pense que je suis super nulle pour diriger une équipe et subir la pression que c'est de
ça,
monter
c'est
un
une
film
forme
et tout
de
ça.
conscience de soi et de réalisme qui nous manque aujourd'hui, il y a quand même.
Mais par contre, c'est vrai que le découpage, je suis pas sûre d'être bonne pour diriger des acteurs, par exemple, mais par contre, le découpage, ça me passionne. Et du coup, c'est génial parce qu'avec ce boulot-là, je peux le. Comme j'écris aussi des scénarios, je peux participer un peu à la création de cette étape-là qui est pour moi la plus intéressante, en fait, du travail de réalisation. Mais après, ouais, c'est vrai que les tournages, moi, je souffrais, quoi. J'étais complètement angoissée toute la journée. J'avais peur. J'avais l'impression de ne jamais arriver à faire exactement ce que je voulais. Ça me rendait dingue. Mais bon, pourquoi pas? Peut-être qu'un jour,
Mais c'est ça, oui, c'est on dessine, bande dessinée, on est tout seul avec soi-même ou par pair, mais vous maîtrisez l'un l'autre, j'imagine, non? Tandis qu'en travaillant en équipe, forcément, obtenir exactement ce qu'on a sur ce qu'on a dessiné, c'est notre paire de manches.
Et oui, bah oui, c'est il y a plein de contraintes, plein de compromis à faire.
Donc, on va changer d'interlocuteur rapidement, puisque David, tu as fait la direction d'acteur, en fait, mine de rien, avec ton film.
Oui, mais c'était plutôt pour les voix, puisque c'était un film d'animation.
Ah, mais quand même!
Oui.
Donc, Boyana, si tu veux bien changer de dossier pour passer à celui de David Bozek. Si jamais vous avez des questions, gardez-les en réserve. Après, on passera le micro à la salle. Vous êtes encore plus nombreux que tout à l'heure, c'est juste génial. Voilà, donc ça, c'est un rappel du rendu de ton film.
Oui, voilà, ça c'est une image finale du film d'animation que j'ai fait récemment. Donc
ça, c'est un photogramme, hein, ça figure dans le
Ouais.
film, c'est pas un plan
Ah ouais,
une
ça
planche de
c'est.
préparation.
Là, c'est vraiment le résultat de pas mal d'étapes, justement. Par exemple, les décors, là, c'est les décors qui sont terminés, mais il y a l'équivalent du storyboard pour les décors, ça s'appelle le layout en animation. Mais j'en ai pas un exemple ici, mais j'aurais pu éventuellement montrer à quoi ça ressemblait. Avant, c'était une ébauche très détaillée au crayon à papier de ce que ça allait donner sur la peinture. Parce que là, c'est fait à la peinture.
Boyana, tu peux juste revenir
Et là, c'est vrai que c'est que
à
des
l'image de la
grammes.
cathédrale, l'intérieur de la cathédrale en ossement. Parce que je constate qu'en fait, tu nous fais l'effet de flou aussi. Tu nous fais l'avant-plan flou.
Ah oui.
Et
Et ça, c'est.
non, mais c'est quand même
Effectivement,
intéressant de voir
c'est un peu
que.
pour jouer sur la distance. Après, je ne sais pas si la focale est très respectée, mais parce que c'est toujours des détails au micro-poil, mais. Mais en gros, c'est pour donner l'effet de premier plan et l'effet.
Oui, c'est vrai qu'un premier plan flou en focale large comme ça, je sais pas si
C'est possible.
Mais il y a un effet au cinéma qu'on retrouve souvent dans les films qui s'appelle le flou net. Enfin, on peut appeler ça différemment, mais en gros, c'est quand il y a l'arrière-plan qui est net et l'avant-plan qui est flou et vice-versa. Et souvent, quand il y a un objet posé sur la table et qu'il y a la réaction de l'autre personnage, de l'autre côté.
Donc ça, pour ton film, t'avais fait ton storyboard et ton layout. T'étais complètement tout seul pour la
Du
création
coup, là, j'ai
graphique.
beaucoup appris parce que j'ai fait et le scénario, et le storyboard, et du coup, j'ai dirigé mes animateurs, et finalement, j'ai fait presque toutes les étapes. Et donc, le storyboard en animation, je sais pas si on a un exemple dans le dossier, du storyboard de ce film.
Non. Ah
Ah
si,
si, si,
si, oui,
si.
mais voilà.
Alors ça, c'est un des premiers storyboards que j'ai fait pour une autre séquence. Et là, chaque vignette correspond à un plan et à une réaction du personnage. Donc on voit bien que le rendu du storyboard est différent du rendu final du film. Parce que là, j'ai choisi de faire quelque chose d'un peu plus nerveux au crayon à papier par rapport... Il fallait qu'on sente... Je l'ai fait dans l'impulsion de la création de mes idées à ce moment-là. Mais il faut savoir qu'ensuite en animation, il faut détailler ensuite le nombre d'images, le nombre de secondes, le nombre de pauses. Il faut tout expliquer ensuite aux animateurs pour que ce soit vraiment très précisément le temps, parce qu'on a un temps très court de travail. Là, avec mes animateurs, j'avais en gros 3 mois pour faire un quart d'heure de film, ce qui est vraiment très très serré. Et on était qu'il y avait que 3 animateurs.
Là, dans ton film, c'est vraiment 24 images par seconde?
Alors l'animation, c'est un peu plus... Oui, alors ça défile à 25 images par seconde maintenant, parce que quand on passe au numérique, et
Oui,
maintenant c'est
c'est
plutôt
25,
25.
excuse-moi.
Mais c'est jamais animé en full animation, c'est toujours au maximum 12 images par seconde. Chaque image est jouée deux fois. Et mais on peut vraiment jouer sur... parfois, on peut laisser 4 fois une image, ou ensuite en mettre qu'une. Et on peut vraiment jouer beaucoup sur le rythme. Et ça, c'est un travail qui se fait aussi au montage après. On peut vraiment jouer après sur le rythme de défilement des images. C'est une latitude qui est en animation, qui est intéressante.
Alors la planche d'après, je crois que c'est aussi...
Qu'est-ce que c'est ?
Voilà.
C'est la même séquence. Et c'est vrai que le format est très rigoureux, c'est vrai qu'on ne peut pas s'échapper. Enfin, Marie a montré des choses intéressantes justement de torsion, de vignette et tout ça. Et moi je suis resté dans un fonctionnement où j'avais pas de mouvement de caméra et je faisais que plan fixe sur plan fixe. Et avec en jouant que sur la composition et en faisant comme si c'était vraiment des tableaux très fixes. Il y avait un côté très frontal comme ça.
Dans ton film c'est comme ça aussi, il n'y a pas de mouvement de caméra.
Très 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 peu. Alors des très légers panneaux.
Et donc, outre ce dernier travail d'animation, et j'imagine que tu en prépares d'autres, des films d'animation, voilà. Tu as un travail plus quotidien, donc ton métier de storyboarder.
Bah, c'est un peu comme Marie, oui, je fais, voilà, mais pas forcément dans les mêmes domaines. Alors ça, c'est intéressant parce que...
Donc la planche d'après, si tu veux bien, Boyana, si je me souviens bien. Alors,
c'est toujours...
C'est toujours le storyboard, tu vois, je pensais. Alors voilà, donc là, on...
Alors ça, c'est marrant.
Donc ça c'est une première case de storyboard, je les ai pris une par une, comme ça nous donne bien la figure.
Ouais, c'est ce qui est très bien, c'est que c'est très différent de ce que fait Marie, et c'est bien de pouvoir montrer ce qu'on fait différemment. Donc le travail de Marie, elle a beaucoup plus de, j'ai l'impression, de créativité et d'espace à toi, puisque par exemple, tu disais qu'Odia te proposait un découpage par exemple. Moi je bosse surtout dans la publicité.
Aussi, donc là ce qui défile c'est les cases successives d'un même storyboard
et là par exemple là c'est pour un clip pour un réalisateur qui a un univers très très bon de dessiner et du coup qui m'avait demandé de faire quelque chose de très stylisé dans son univers pour qu'on ait l'impression très
super grand en fait c'est on
très, très cartoon bah, ça défile comme ça et du coup tout est très exagéré et ça représente aussi son univers son univers. Là, pour le coup, j'avais une marge de manœuvre au niveau du dessin. Je pouvais faire en gros ce que je voulais. Mais faut savoir que dans le clip, c'est pas toujours utilisé le storyboard parce que en France, c'est quand même un luxe en fait finalement de faire un storyboard. Et tous les longs métrages n'en utilisent pas. Et quand ils en utilisent,
on a changé de genre.
Ouais.
Tu veux bien
T'en
reviens juste une image en arrière et faire pause et après on ira vers les pops.
En gros, tous les longs métrages n'utilisent pas de storyboard. Quand ils en utilisent, c'est qu'une petite. C'est qu'une partie des séquences quand il y a des effets compliqués. Les courts-métrages, il n'y a jamais personne. On ne peut pas payer forcément un storyboarder, donc c'est rare que ce soit storyboardé. Ou alors c'est
non,
par le réalisateur lui-même.
On ne peut payer personne. C'est...
Ouais. T'inquiète. Et du coup, l'animation, c'est indispensable d'avoir un storyboard, parce que c'est une étape de construction. Et la publicité, c'est aussi indispensable dans le sens où il y a beaucoup d'intermédiaires, il y a un client. Le gros client qui...
Voilà, donc on peut passer à Miel Post, pardon. Voilà. Je l'ai pris, parce que vraiment, là, le rendu, il n'y a pas plus contrasté quoi, par rapport à avant. Ouais. Donc, ça va aussi défiler...
Soit très propre.
C'est vraiment mignon comme tout.
Oui, c'est très mignon. En gros, il y a le client, il y a l'agence de pub, il y a la boîte de production, il y a le réalisateur, il y a les différents intervenants. Et non seulement ça doit avoir oui, c'est très mignon. il y a un côté, en fait, technique qui doit être impeccable et très propre et que tout le monde doit pouvoir s'y retrouver sur ce que va être le découpage. Et puis c'est toujours un temps très court, la publicité.
Faire pause, voilà.
C'est toujours des pubs de 20 ou 30 secondes. Et du coup, il faut que ce soit très facile. Mais en plus, il faut que ce soit joli à regarder parce que si, par exemple, il y a quelque chose dans le trait qui ne va pas plaire au client, il va falloir refaire le dessin. Et pour le coup, c'est tout à fait subjectif parce qu'on sait très bien que ce qui va être tourné au final va pas ressembler au dessin, ou va pas être exactement la même chose. Donc on chipote déjà même sur le dessin en soi, en tant qu'entité indépendante. Alors que théoriquement, le storyboard, c'est censé être qu'une étape.
Oui, pour en fait, pour les marketeurs et
ouais.
La notion d'art séquentiel, c'est juste abstrait.
Voilà, ben c'est communication à ton.
Voilà, c'est une planche de communication plus ouais. Qu'un instrument de découpage
ouais,
technique.
Voilà, parce que souvent, en publicité, les réalisateurs ont un temps très court pour faire un film, c'est 20-30 secondes. Du coup, ils ont déjà pensé bien en avance leur découpage, leur raccord. Et j'interviens à partir d'un moment où ils ont déjà plus ou moins une ébauche. Ils font des croquis eux-mêmes. Du croquis de réalisateur, c'est toujours assez rigolo. Parce que des fois, il faut vraiment déchiffrer. Mais et en gros, c'est rendre au propre ce qu'ont déjà imaginé et ont déjà croqué.
Donc la planche suivante, ça c'est juste plus global.
Voilà. Il y a beaucoup moins de marge de création en fait.
Donc ça c'était Nestlé.
Ça c'était, c'était un storyboard aussi pour Nestlé. Là il y a plusieurs images en même temps. Donc
oui, c'est ça. Donc là j'ai juste fait une capture d'écran de ton site, mais on peut aussi avoir image par image en cliquant dessus.
Alors là j'ai choisi justement de... Comme il y a le réalisateur était assez hésitant, on m'a demandé beaucoup de retouches. Et souvent quand on travaille dans la publicité, c'est dans l'urgence, c'est souvent la veille pour le lendemain ou travailler en deux jours. Et juste on ne peut pas se permettre de lécher les ombrages, de mettre beaucoup de détails. Du coup là j'ai choisi une ligne très claire et très simple, avec des proportions relativement réalistes quand même. Mais en tout cas de ne pas faire trop de détails, parce que je savais qu'on allait me redemander de changer. Donc il faut toujours adapter son trait, contrairement à Mielpop où je savais que ça n'allait pas bouger. Du coup j'ai pu travailler un peu le décor et tout ça, les alvéoles. Donc faut dans l'urgence pouvoir imaginer quelle technique de dessin on va utiliser. Par rapport justement aux contraintes qu'on peut avoir. Ça, c'est, je sais pas, c'est l'expérience qui amène ça.
Alors, je sais plus quoi. Après, je pense qu'on est au bout du diaporama. Oui, c'est ça.
Ouais, on vient là.
Okay. Écoute, on va en venir à la bande dessinée, au roman graphique avec Rupert et Mulot. De toute façon, n'hésitez pas à garder le micro, à faire circuler. Si vous voulez poser des questions et tout. Donc là, ça va être un autre univers hein, tout de suite. Donc du coup, Boyana, si tu veux bien aller sur le dossier REM. Oui, pardon, on quitte le dossier de David et on va sur le dossier REM. Voilà. J'ai aussi été sur votre site pour... trouver des planches qui soient un peu une pause. Voilà, donc là on retrouve le dessin en case qui est classique mais avec des contraintes que vous donnez vous-même. Donc Florent, en fait, quand on en a un peu discuté en amont, tu m'as parlé de direction d'acteur et tu m'as parlé aussi de découpage et de vos choix de découpage, des contraintes que vous vous donnez. Il faut dire que d'un livre à l'autre, les planches sont extrêmement différentes. Là, il y a des découpages en cases assez classiques avec une lecture classique. Donc c'est le fameux gaufrier, quoi. C'est le truc. Donc on constate que vos personnages, ils n'ont pas de visage. Donc vous travaillez sur autre chose. Vous pouvez m'expliquer comment est-ce que vous faites. Non, Jérôme, il ne veut pas parler. Merci.
Donc oui, très tôt dans quand on a fait la bande dessinée, à la place de dessiner donc les yeux, le nez, le visage, et à la place d'utiliser le visage pour placer les émotions en fronçant les sourcils, en faisant sourire ou en faisant pleurer, et donc en faisant des gros plans sur les visages comme c'est souvent dans la BD, on a fait une sorte de V. Pour schématiser le visage et gommer toutes les expressions du visage. Et les sentiments et les émotions du personnage, on les exprime par le corps. C'est-à-dire qu'on utilise les postures d'épaule et les rapports de corps pour exprimer leur rapport. Et donc, on a souvent des plans où nos personnages sont en plein pied ou en plan américain. Si tu veux, pour mettre en scène le corps.
Alors la planche d'après, voilà, donc là c'était vraiment, j'ai pris ça pour montrer à quel point il y a une lecture élaborée et puis il y a au milieu cette espèce de défilement qui peut faire sembler à une pellicule. Et du coup là, le raccord regard, vous l'avez vraiment. Donc, c'est une manière très élaborée de construire le dialogue et le récit. Comment est-ce que vous en arrivez à cette séquence-là? Parce que c'est quand même surprenant.
Vas-y, Jérôme.
est-ce que c'est le dialogue qui guide la case, en l'occurrence? Est-ce que c'est... vous écrivez le dialogue avant?
Ouais, c'est l'idée de faire un long dialogue, de pas forcément faire tout le premier dialogue et qu'il y a les bulles les unes sur les autres. Ça aurait pu être une page ou deux de bande dessinée où c'est le dialogue, il parle.
Donc le fameux champ contre champ, un personnage, voilà. Un personnage.
Du coup, là, on pouvait tout dérouler d'un seul coup, lire le vrai dialogue et avoir une image à la fin qui est, on va dire, la dernière image du dialogue.
qui nous dit qui parle en fait.
Et ça, voilà. Et qui permet de. Parce que comme c'est vraiment du dialogue, ça aurait vraiment été un peu chiant quoi. C'était case 1, personnage clair, case 2.
Oui, mais vous le mettez quand même au milieu ça. C'est. Il y a une quantité de sens différents qui est, comment dire, véhiculée par cette planche. C'est assez hallucinant, mais il y a un besoin d'interprétation qui est assez fort quand même. Parce que le voisinage des deux personnages noirs qui sont à gauche, et puis les deux personnages blancs, donc ils parlent l'un de l'autre, évidemment, c'est tout ça. Puis après, il y a les petites cases au milieu qui font cette bande qui ressemble un peu à une pellicule. Est-ce que vous utilisez tout ça pour rythmer aussi, pour donner une notion de durée à votre planche, pour qu'elle s'installe dans le temps aussi. J'ai l'impression que vous servez de ça aussi, pas mal. Aidez-moi, là, les gars.
Alors, effectivement, je veux juste revenir sur l'idée d'acteur que tu m'as soulevé. Nous, donc, effectivement, la bande dessinée, donc là, je vais répéter ce que je t'ai dit la dernière fois.
Oui, c'est
donc,
parfait.
Toi, ça va être une redite. Ouais. Donc, en fait, je lui expliquais que la bande dessinée, c'est l'art bâtard par excellence, c'est-à-dire que c'est vraiment l'entre-deux entre la littérature et les arts plastiques, et que nous, quand on parle de bande dessinée avec Jérôme, on est tout le temps en train d'utiliser du vocabulaire du cinéma, du vocabulaire du théâtre, on parle beaucoup de jeux d'acteurs, et en fin de compte, la bande dessinée, c'est voilà, c'est ça, c'est, en fait, tu fais de la BD, mais voilà, on utilise à peu près tous les outils qu'on a à disposition, c'est un médium où tu es effectivement tout le temps un peu le cul entre les chaises. Nous, on utilise beaucoup la notion de jeu d'acteur parce que, pour vous dire un petit peu comment on va faire une histoire, on parle, on trouve des idées, on mélange des ingrédients, si je puis dire. Ensuite, on va écrire tout de suite des dialogues, très vite. Et ensuite, avec ces dialogues, on va faire un découpage. On va faire une sorte de mise en page avec quel dialogue va à peu près où. Et là, à partir de cette étape-là, on dessine nos personnages et on dessine ces personnages-là à partir des dialogues. Souvent, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que nos personnages se trouvent dans des... Il se passe des choses quand tu dessines. Quand tu dessines le corps, quand tu dessines les visages. Et en fin de compte, nous, on est obligé toujours de réécrire les dialogues, comme tu as dit que tu faisais aussi, parce que tu te trouves avec un personnage, par exemple, qui va dire d'autres choses avec son corps, et ça colle plus, en fin de compte, ce qu'il dit. Donc nous, on réécrit énormément les dialogues, mais on réécrit aussi souvent le personnage, c'est-à-dire qu'en fin de compte, si là c'est important dans ton dialogue, par exemple, tu as un personnage qui va humilier un autre personnage et utiliser la situation de l'autre à son avantage, on va redessiner les postures d'épaule, on va cibler, nous, dans notre jargon, on va peaufiner le jeu d'acteur dans le personnage. Et je voulais juste dire par rapport à ce que tu disais de la scène à Codiar, c'est marrant, parce que nous, donc là, on vient de faire un livre, par exemple, qui s'appelle La Grande Odalisque, où tu as trois voleuses qui volent des tableaux au Louvre. On a...
Boyana, si tu peux faire défiler, parce qu'il y a une planche ou deux de l'Odalisque, c'est les planches colorées, très bleues, sont un peu plus tard. Encore, voilà.
Voilà.
Merci.
Et bien, par exemple, dans ce livre-là, on a toute une... Ça, c'est au musée d'Orsay. Donc, on est... les voleuses ont enlevé un carreau et sont passées par là, voilà. Et après, on a une grande scène dans le Louvre, avec vraiment de l'action, où il y a une course de moto dans le Louvre. Eh bien, nous, à la différence de vous, c'est marrant, parce que je sais, avec Jérôme, que si on avait fait une scène dans une voiture où t'as des mecs qui se shootent dans la voiture, on serait allé dans la voiture... Alors ce serait genre, les mecs, ils se seraient mis comme ça. En fait, on aurait fait l'inverse un petit peu de ce que toi tu décris, où on aurait dessiné, donc toi tu as dessiné la voiture du haut, tu dis, et par contre, en discutant avec Audiard, vous faites des schémas, vous dites, oh, il serait là. Nous, donc pour le Louvre, on est allé au Louvre, on a pris des photos, et puis surtout, on s'est dit, là, je vois bien les motos, elles pourraient aller comme ça. Et, et, Et je voulais dire ça parce que c'est marrant parce que dans ce que tu décrivais tout à l'heure aussi de la différence entre le storyboard et la bande dessinée, où tu dis par exemple la règle des 180 que ça n'a pas lieu, tu dis que les personnages vont pas dans, y a pas de, ils rentrent pas dans le champ ou des choses comme ça, et ben nous on est tout le temps, si tu veux, en train de faire ça, d'avoir ces problèmes là. Et par exemple, il y a encore, il y a à peine deux jours, pour cette histoire de 180 degrés que tu te dis, de cette ligne en fait, et ben nous, c'est souvent qu'on, voilà, on dessine le personnage, on dit, ben voilà, il y a un personnage sur un canapé qui est assis, le personnage il est debout, et il est, en fait il voudrait que le personnage sur le canapé il s'en aille, ils ont un dialogue, et donc là on va utiliser vachement le fait que tu es sur un personnage, après tu montres l'autre personnage, parce qu'on veut, voilà, on veut exprimer le fait que tu as un personnage qui est debout, mais qui, voilà, en fait, il veut faire comprendre à l'autre que c'est le moment de partir. Et donc, on utilise, en fin de compte, vachement cette technique, où tu montres un, ensuite l'autre. Et nous, souvent, on se retrouve avec un personnage où, en fait, quand il parle à l'autre, on est obligé de le retourner, on est obligé de le détourer sous Photoshop, le flipper, pour qu'en fin de compte, il regarde dans le bon sens, parce qu'en fait, avant, ça marchait pas, tu vois. Alors que, si tu veux, nous, on a dessiné nos personnages dans l'espace, on les a bien compris, tu vois, on les dessine. Et puis en fait, tu te retrouves, non, avec des problèmes de lecture. Oui,
donc la règle des 180, vous l'appliquez tout
alors,
le temps.
Alors, moi, on se la formule comme ça, mais effectivement, on se retrouve avec des cases qu'on flippe, toi, de temps en temps, pour faciliter la lecture, en fait. Et je voulais juste une chose là-dessus. Nous, en bande dessinée, on doit effectivement gérer le temps. Il y a un truc aussi intéressant dans ce que tu disais, c'est que tu dis, en fait, dans mon storyboard, j'ai pas besoin de marquer la durée de mes plans, parce que voilà, on comprend à peu près. Mais ça, je crois que c'est lié effectivement à cette qualité du dessin, où en fait, il y a du temps dans la case. Tu vois, par exemple, quand tu as un personnage qui marche, et après tu vois qu'il saute la barrière, et tu fais la flèche, ou... Ben, en fin de compte, il y a un temps, en fait, tu peux le sentir, tu as une sensation du temps qui passe. Et donc, nous, en bande dessinée, grosso modo, on peut jouer en plus de vous sur la taille de la case. Donc, la taille de la case va donner.
D'ailleurs, là, cette planche-là, je me permets de te couper, à la rigueur, on a presque en plan par case. Ça pourrait faire office de storyboard par rapport à ce que vous faites. Là, vous avez travaillé avec Bastien Vivès,
ouais.
Mais par rapport à quand vous travaillez juste tous les deux. C'est quand même presque plus classique, parce que là, pour le coup, le découpage, on le sent vraiment, quoi. La lecture de la planche, elle se fait différemment. Là, le dynamisme, la taille, la grande taille de la case, c'est exactement ce que tu dis, quoi. C'est le plan d'exposition où on reste un peu plus longtemps pour comprendre de quoi il s'agit. C'est ça, ce dont tu parles.
Une grande case va respirer plus qu'une petite case.
Elle va avoir une durée plus grande. Et oui, et par exemple aussi, il y a une spécificité, enfin il y a un truc qu'on peut utiliser en BD, mais qui au cinéma n'a aucun sens, c'est le sens de lecture. Et là, je vois que vous utilisez pour dynamiser un mouvement le sens de lecture gauche-droite. Quand le type se fait happer à droite, c'est beaucoup plus dynamique que s'il se faisait happer à gauche dans la BD.
Parce qu'en fait, dans la bande dessinée, on le lit de gauche à droite, donc en fait, t'as un regard qui balaye ta case de gauche à droite, effectivement. Et donc pour être un peu plus technique, dans la bande dessinée, donc l'espace donne du temps, plus qu'encore que l'espace a un corps en mouvement, parce qu'en fait tu traduis son mouvement en temps, et encore plus fort que ça, je crois, qui donne encore plus de temps dans ta case, c'est les bulles. Parce que dès que quelqu'un en parle, en fait tu as tout ce temps où il va dire sa phrase, qui va aussi se traduire en temps, temps qui s'écoule dans ta case. Nous on joue sur les... Attends, je finis ce que j'ai dit.
Du coup, tu peux venir en arrière, Boyena, parce que là, le coup de bulle, on voit très très bien sur les planches.